18h30, 19h, Moselle Actuelle sur RCF Jéricho-Moselle.
Invitation à un concert de printemps, dimanche 24 mars, en l'église Notre-Dame de Villerue, organisé par l'Association pour la paix et contre la guerre, avec l'ensemble vocal Cantate de Longwy, dirigé par Marie-Paul Baumgartner-Sandron, et elle est organiste aussi d'ailleurs, et puis aussi vos enfants, tiens, Claude Pantaleoni et Natalia, donc Laura et Daniel Pantaleoni à l'orgue, et Maria Savkevitch, qui est assise tout près de moi dans ce studio, et qui est violoniste. Alors on va surtout expliquer les circonstances de ce concert de printemps, qui sera aidé grâce aux bénéfices de ce concert. Mais un petit mot, Claude Pantaleoni, pour nous rappeler ce qu'est cette association que vous avez créée, donc l'Association pour la paix et contre la guerre.
Nous l'avons créée à la suite de l'invasion russe dans l'est de l'Ukraine. En organisant les aides aux réfugiés, on s'est rendu compte que c'était un grand conflit, il y a 4 ans, et qui d'ailleurs est toujours actuel. On n'en parle pas dans les médias, mais c'est toujours un grand conflit dans l'est de l'Ukraine. Et on s'est rendu compte que ça concerne toute l'Europe.
Alors effectivement, on n'en parle pas, mais pourquoi n'en parle-t-on pas? On a parlé de manifestations lorsqu'il y avait eu, il y a quelques années, ces manifestations à Odessa notamment. Mais de l'est de l'Ukraine, où on a parlé de la Crimée aussi, mais de l'est de l'Ukraine, il en est très peu question. Natalia Pantaleoni, vous êtes vous-même ukrainienne?
Oui, je suis ukrainienne et je suis née à Donetsk. Pour ça, ce thème est très...
Donc là, on est dans l'est aussi. Hein.
Oui.
Effectivement, c'est pas très loin.
Mmh. Oui, c'est, cette ville actuellement, elle est occupée. Et c'est très commode de ne pas nommer tout ce qui se passe en l'est de l'Ukraine, ne pas nommer une guerre, pour ne pas faire le conflit avec la grande Russie, avec la Russie puissante. Mais ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine, c'est une véritable guerre. Depuis l'année 2014, il y a un essai de prendre pouvoir par les petits groupes envoyés depuis la Russie. Ils occupent les bâtiments administratifs en mettant les drapeaux, soi-disant les républiques populaires de Donetsk et Lugansk. Ils occupent les petites villes comme Slaviansk. Après, quand l'armée ukrainienne intervient et essaye de libérer les territoires, l'armée régulière russe, elle entre en conflit. À partir de ça, la moitié de Donbass, il reste occupé. L'Ukraine, il n'a aucun pouvoir sur les territoires à Donetsk et Lugansk. La monnaie, c'est monnaie russe. Les gens qui ne sont pas d'accord avec ce régime, ils sont arrêtés, torturés. Il existe même les camps de concentration à Donetsk. Ce qui se passe, c'est une véritable guerre. Et chaque jour encore, sur la ligne de front, il meurt les soldats et les civils.
Et pourtant, alors nous, ici, en Europe, on n'en parle pas ou très peu de cette guerre du Donbass. Effectivement, mais ce territoire, donc cette partie-là de l'Ukraine, contrairement à ce qui s'est passé en Crimée, on est toujours en territoire ukrainien. Cette partie-là n'a pas été annexée par la Russie.
Voilà, quand commence... les événements en Crimée, en Ukraine, il n'y avait personne qui pensait que c'est possible en 21e siècle qu'un pays il va occuper l'autre. On croyait que tout va se passer et se résoudre paisiblement. Et alors si on se retire, la vérité, la paix, il va s'installer quand même grâce aux traités internationaux. Mais l'armée ukrainienne s'est retirée, le Crime elle était annexé, Poutine a créé des faits que maintenant la population elle vit en Russie. Et alors les Ukrainiens, ils ont compris qu'ils n'avaient pas le droit de laisser les terres comme ça se retirer. Et il faut se battre pour garder sa souveraineté et son territoire. C'est pour ça que le scénario des Crimées, il n'est pas passé.
Et là, l'armée ukrainienne se bat pour garder le territoire?
Oui, bien sûr.
Dans cette guerre du Donbass?
Oui.
Présentez-nous, je vous laisse, Natalia, nous présenter votre invité qui est présent pour ces journées et pour sensibiliser à la situation donc, dans cette partie est de l'Ukraine.
Notre invité, c'est M. Alexis Savkevitch. Il est politologue et actuellement, il vit à Avdiivka. Il a pris initiative... d'organiser les jeunes dans sa ville pour créer un espace de présence culturelle, pour faire voir aussi que la présence culturelle ukrainienne, ce n'est pas des fascistes comme ils sont montrés par les Russes, que c'est très positif et que les jeunes de sa ville et les environs les soutiennent. Et ça donnait un grand impulse, c'est le premier festival organisé en 2018. Ils avons développé un projet de création d'un espace musical ouais. où les gens ils peuvent se rencontrer durant toute l'année.
C'est répondre à une invasion par la culture, par la musique, par le théâtre, par la poésie. Donc une réponse artistique à cette situation particulièrement dure à vivre. Juste, alors, et on va lui donner la parole tout de suite à Alexis. Avdiivka, ça ressemble à quoi ?
Avdiivka est un большой промышленный город.
Авдеевка – это большая вилла индустриэль.
Насчет большой, я, конечно, погорячился. Небольшой промышленный город.
La parapora Донецка или Паси Гранда.
Это большой промышленный завод, один из крупнейших в Европе.
Il a un très grand fabrique métallurgique, un des plus grands en Europe.
Коксохимические, там делают кокс, который потом используют в металлургии для изготовления металла.
On produit le coke qui sera utilisé après pour produire du métal.
Население 40 000 было до войны.
Avant la guerre, la population comptait près de 40 000 habitants.
C'est un peu une ville comme Thionville, si on compare avec une ville Mosellane.
В 2016 году уменьшалось до 15 000, даже до 10, а сейчас где-то 25.
Dans les années de combat très fort, c'est 2015-2016, la population s'est réduite jusqu'à 15. Il y avait les périodes où ce comptait 10 000 habitants.
Quel est le quotidien des habitants d'Avdiivka ? Quel est votre quotidien à vous ? Comment se passe votre vie dans ce contexte particulièrement difficile ?
Nous, самый тяжелый был год 16 февраля.
L'année la plus dure, c'était pour nous février. De 2015.
И в этот период
les combats militaires ouverts, même dans la ville, à l'intérieur de la ville. Il y en avait beaucoup de bombardements dans les quartiers. Le commencement d'hiver, on est supporté encore. On avait une espérance que on va tenir.
И вот где-то, может быть, был период.
Fin janvier, début février, beaucoup des habitants ils ont quitté Avdiivka parce que les combats ils étaient très forts, il y avait danger pour la vie réelle.
Ну, и в 2015 году не было.
En hiver 2015, il n'y avait dans les maisons ни électricité, ni l'eau, ni chauffage. On avait un peu de gaz pour la cuisine, c'est tout.
Ce sont des conditions très difficiles, effectivement, pour pouvoir survivre. Du coup, les habitants sont partis.
Voilà, la plupart des habitants ils sont partis.
Là, nous sommes dans ces années très difficiles. En 2015, comment la situation a-t-elle évolué donc depuis 2015 et aujourd'hui, en 2019
Многие люди вернулись в город.
En 2016, il y en avait peu de personnes qui retournaient, mais en 2017-18, le front se stabilise et l'armée ukrainienne tient cette ligne de front. Et ça a permis aux gens de retourner à Avdiivka. Et maintenant, il y a une tendance que la population petit à petit augmente.
Mais alors, quand on circule à Avdiivka en ville, est-ce qu'on croise des patrouilles donc de soldats ukrainiens ? Est-ce que la ville fait l'objet d'attaques ou pas ? Ou ça se passe où les affrontements sont plutôt, on n'est pas tout à fait à la frontière, donc les affrontements sont plutôt encore un petit peu plus à l'est vers la frontière.
В городе можно было встретить военных. Сейчас редко.
On peut croiser les militaires ukrainiens dans la ville.
Ну, в целом, вот когда идешь по городу, можно даже, если не присматриваться, не понять, что ты в городе, который был очень сильно связан с войной.
Il y a les parties de la ville où on peut avoir l'impression que ça se passe rien.
Кроме некоторых зданий, которые сильно всего пострадали.
Il y a beaucoup de bâtiments qui ont souffert des bombardements où on remarque tout de suite qu'ici, il y a peu qu'il y avait les places de combat.
Ну, каждый раз, когда к нам приезжают журналисты и знакомые, они слышат, особенно когда выходишь на улицу, слышно вечером вдалеке где-то какое-то эхо.
Quand il y a les journalistes ou bien les amis qui viennent nous visiter, le soir, normalement, on entend les échos des bombardements.
Qui se déroule où, ces bombardements?
Это где-то, ну, примерно по ощущениям, это где-то километра 3, 4, 5.
Il se déroule dans 3, 4, 5 kilomètres d'Avdiivka.
Non, для нас это уже...
Maintenant, les habitants d'Avdiivka, ils sont habitués à ce bruit-là. Ils ont seulement peur quand les bombardements s'approchent. Ils entendent pas seulement écho, mais vraiment les sifflements. Et ça veut dire que les bombes vont tomber près. Et alors, dans ce moment-là, il faut chercher un endroit plus stable, se mettre par terre et attendre que ça passe.
Поэтому нам удивительно, что, ну не удивительно, но люди, которые приезжают, они не понимают, как к этому можно привыкнуть.
И les gens qui de temps en temps viennent nous visiter, ils comprennent pas comment nous restons ici, comment on peut s'habituer à ça.
Alors dans ce contexte de vie quand même très très difficile, vous avez eu l'idée de créer, et ça peut paraître pour certains complètement incroyable, de créer un festival. Alexis Savkevitch, vous avez créé un festival, et si j'ai bien compris, le festival se trouve juste à côté même d'un champ miné. C'est quand même fou.
C'est ça.
C'est
vrai, l'année passée, on a fait le premier festival à Avdiivka, et pour les journalistes, c'était impressionnant, ils ont photographié tous. Les champs où s'est déroulé le festival s'est terminé, et après, dans un kilomètre, ils commençaient les champs minés. Il y avait les musiciens, les artistes de Kharkiv. Avant d'arriver, ils nous avons demandé, mais vous savez comment la situation est maintenant, au moins le jour du festival, si ça sera tranquille. Alexis, il avait un espoir que ça soit tranquille, mais le jour même du festival, ils entendaient le bruit de bombardements et c'était assez, la situation était assez tendue.
Oui, effectivement, on pourrait se poser la question. Enfin, l'idée, c'est que la musique puisse faire taire les bombes, c'est ça. Et puis, c'est aussi de faire exister la culture ukrainienne dans cette région où on cherche parfois à imposer donc une culture russe.
Oui, d'un côté, c'est un essai pour faire voir que nous ne sommes pas intéressés à la guerre, mais nous sommes intéressés à la jeunesse, au futur, à la culture. Dans le vacuum culturel qui a créé la guerre en Avdiivka, nous essayons de faire montrer aux jeunes un espoir.
La deuxième édition du festival est datée pour cette année 2019.
Du 30 avril au 1er mai 2019, il y aura le deuxième festival.
Merci beaucoup. Simplement un dernier mot. C'est vrai que pour l'association pour la paix et contre la guerre, c'est aussi attirer déjà ici dans la région, en Lorraine, bon, à Villerue où se déroulera le concert, mais déjà dans notre région, en Lorraine, en région Grand Est, attirer l'attention, disons, des Lorrains sur la situation dans cette partie de l'Ukraine. C'est vrai qu'on l'a dit en début d'enregistrement de cette conversation, qu'on connaît très peu. Nous, on est très peu attentifs à ce qui se passe là-bas.
Nous voulons d'un côté aider à ce projet, exactement pas seulement soutenir le festival, mais aussi soutenir une idée de création d'un espace musical où ce que les gens ils peuvent se rencontrer durant toute l'année, pas seulement quelques jours quand il y a la fête, mais aussi pendant l'année, venir faire la musique avec les copains. On trouve que cette idée elle est très bonne et on veut acheter quelques instruments musicaux pour ce projet. Mmh. Et de l'autre côté, pour nous, c'est très important le témoignage que Alexis et Marie elles peuvent faire comme les gens qui vivent dans cette ville.
18h30, 19h, Moselle Actuelle sur RCF Jéricho-Moselle.